France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui.
5, 4, 3, 2, 1, ignition. And lift off.
Go Sophie Adnaud est dans l'espace en route vers la Station Spatiale Internationale. Le décollage de l'astronaute française s'est déroulé sans accroc ce matin en Floride. Nous y serons dans un instant. Nous revivrons aussi ce moment historique à Toulouse, à la Cité de l'Espace. Nous serons aussi en ligne avec Claudie Aigneret, la première française à être allée dans l'espace et qui a accompagné Sophie Adnaud ce matin aux États-Unis. Elle sera notre invitée. À suivre encore les conséquences de la tempête Niels, encore 450 000 foyers privés de courant. Nous serons en Gironde avec les équipes d'Enedis. Les mots d'Emmanuel Macron qui a rendu hommage ce matin à Ilan Halimi, 20 ans après sa mort. Le chef de l'État dénonce l'hydre antisémite.
N'en déplaise à certaines puissances qui voudraient nous donner des leçons, dans la France des Lumières, le free speech s'arrête à l'antisémitisme et au racisme.
La liberté d'expression a des limites, dit le chef de l'État, et nous verrons que les clichés sur les Juifs dans notre pays ont la peau dure. À partir de 13h30, comment le cheval est devenu le compagnon de l'homme? Comment a-t-il été domestiqué? C'est une grande expo à Toulouse en ce moment, et le spécialiste du sujet, Ludovic Orlando, est avec nous. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Le scientifique poète amoureux des Pyrénées, Martin de la Soudière, vient de disparaître. Virginie Troussier lui rend hommage. Juste avant 14h, c'est une chanson. La comédienne Laura Presgurvic demande la lettre de Rosalie par Romy Schneider.
Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, elle me va droit au cœur. Je trouve ça tellement beau. Je trouve que c'est de la poésie et c'est une musique qui me brise le cœur à chaque fois que je l'écoute.
Ce sera au micro de Julien Baldacchino et puis nous irons en Italie. Nouvelle médaille pour l'équipe de France aux Jeux d'hiver. En ski de fond, médaille d'argent pour le français Mathis Desloges. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Il était 5h15 en Floride ce matin, 11h15 en France. Dans la nuit américaine, la fusée SpaceX décolle de la base de Cap Canaveral. À son bord, 4 astronautes, 2 Américains, 1 Russe et donc la Française Sophie Adnaud qui, quelques minutes plus tard, prononce ses premiers mots dans l'espace.
For Crew 12, this is our first orbit. For humanity, it's just one small moment in the vast journey of exploring our world and beyond. From up here, we're reminded that we're all connected. Take care of one another, dream big together, and keep reaching higher. That's how humanity moves forward.
Nous sommes tous réunis, prenons soin les uns des autres. Les premiers mots de Sophie Adnaud qui fait maintenant route spatiale vers la Station Spatiale Internationale pour une mission de 8 à 9 mois. Mais revenons sur ce lancement parfaitement réussi et suivi à Cap Canaveral par notre envoyé spécial, Laurent Kramer.
Le ciel s'est fendu d'un son assourdissant ici à Cap Canaveral. Les 400 tonnes de carburant et les 9 moteurs du lanceur SpaceX arrachent la fusée du sol. À bord de la capsule, tout en haut de la fusée, Sophie Adnaud et ses 3 collègues astronautes disparaissent dans le ciel. Deuxième déflagration, 2 minutes 30 après le décollage, le premier étage de la fusée se détache pour revenir à sa base de lancement. Mission accomplie. Sophie Adnaud et ses 3 collègues astronautes naviguent désormais à 28 000 km/h vers l'ISS. Le voyage durera 34 heures. L'équipage devra parcourir jusqu'à 20 fois le tour de la Terre avant d'arriver demain soir à seulement quelques mètres de la station ISS. Sophie Adnaud devient ainsi la deuxième astronaute française à s'envoler pour une mission spatiale habitée. À Cap Canaveral, en Floride, Laurent Kramer, France Inter.
Deuxième française, donc, après Claudie Aigneret, qui sera notre invitée dans un instant. Il semble que vendredi 13 soit un jour de chance. Voilà ce qu'a dit ce matin, après le décollage, le responsable de la mission. Direction maintenant la Cité de l'Espace à Toulouse. Toulouse où Sophie Adnaud, originaire de la Nièvre, a fait une partie de ses études. Ça, c'est pour l'anecdote. Plus sérieusement, plusieurs centaines de personnes ont suivi ce décollage tout à l'heure. Bonjour Boris Allier.
Bonjour.
Vous êtes sur place, racontez-nous ce moment.
Oui, ambiance aussi concentrée ici à Toulouse que dans la capsule de Sophie Adno. Les visiteurs avaient les yeux rivés sur les images retransmises par la NASA, sur cet équipage en combinaison blanche, en position allongée. Sophie Adno à la droite des trois autres membres de son équipage. Les moteurs se sont allumés, de quoi provoquer beaucoup d'émotions parmi les spectateurs.
Oui, beaucoup de frissons.
On aimerait bien être à leur place, mais bon, on peut rester que là, admirer et puis se mettre à leur place, juste imaginer.
Ah, franchement, c'était très impressionnant. Je trouve qu'il n'y a pas encore assez de femmes dans l'espace. C'est encore très masculinisé.
Alors, en atteignant les 100 km d'altitude, Sophie Adno est devenue officiellement la deuxième française dans l'espace, la deuxième à rejoindre la Station Spatiale Internationale, peut-être la dernière, puisque cette station doit être mise hors service en 2030. Pour Laurent, c'est donc un moment historique.
Ah, c'était exceptionnel de vivre ça. Je pense que les enfants étaient ravis. Et puis de vivre ça, c'est une fois dans une vie, je pense. Et donc du coup, on a vraiment profité. Puis il y a eu des applaudissements lorsque le deuxième étage s'est séparé de la capsule. Et donc du coup, c'était vraiment mémorable.
Voilà, Laurent qui va continuer à suivre les aventures de Sophie Adno, qui poursuit donc son voyage actuellement. Il va lui falloir plus de 24 heures pour rejoindre la station.
Merci Boris Allier en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Bonjour Claudie Aigneret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous avez suivi depuis Cap Canaveral avec la plus grande attention évidemment le décollage de SpaceX et de Sophie Adno. 25 ans après votre propre décollage à vous. On sait que vous vous connaissez très bien. Sophie Adno a raconté à quel point vous avez été pour elle une source d'inspiration. Qu'avez-vous ressenti en voyant ce vaisseau s'élever dans les airs tout à l'heure ?
Ben, c'était un moment de grande émotion, je dois dire. Voilà, de la voir partir. C'est vrai qu'il y a cette proximité avec Sophie, cette envie de partager des choses, des expériences vécues, des rêves qu'on a pu avoir dans la tête quand on était plus jeune. Et voilà, c'était vraiment lourd en émotion, mais un très beau moment, parce que Sophie était sereine, rayonnante, et le vol est superbe. Et elle est maintenant. Elle touche son rêve. Elle est en apesanteur sur le chemin vers la Station Spatiale Internationale.
Vous avez pu discuter avec elle avant qu'elle ne monte à bord. Qu'est-ce que vous avez pu lui dire ?
Non, ce sont des petits échanges de SMS. Voilà, c'est sa famille qui était quand même au centre de ses dernières préoccupations, c'est bien évident. Et puis toutes les équipes de NASA, SpaceX comme vous l'avez dit, mais aussi de l'ESA, du CNES, qui jusqu'au dernier moment font en sorte qu'elle se sente complètement prête et sereine pour cette mission.
Qu'est-ce que vous avez pu lui écrire ?
Mais je lui ai écrit de profiter de chacun des moments, de vraiment amasser tous ces petits éléments de réel hein, qui vont compléter ce qu'elle avait en tête et son imaginaire, de se nourrir de tout ça pour être en forme, réaliser une belle mission, tenir sur la durée, c'est une mission longue, et puis de nous emporter avec elle et de nous partager tout ce qu'elle va découvrir.
Claudie Aigneret, vous avez vécu ces moments, qu'est-ce qu'on ressent quand on se trouve à 400 km au-dessus de la Terre ?
Pendant la phase du lancement, c'est un stress positif avec beaucoup de vigilance et de concentration. Une fois que la phase propulsée est terminée, c'est ce qui est le cas maintenant pour Sophie et l'équipage, et bien c'est le moment où on découvre cette apesanteur, où on découvre par le hublot la vision de la planète. Je crois qu'elle doit être rayonnante de bonheur en ce moment. Je l'imagine comme ça.
Est-ce qu'on a le temps pour la contemplation ou bien on est pris par la feuille de route, le carnet de bord, ce qu'il y a à faire dans le vaisseau ?
Pendant la phase dynamique, bien évidemment, on est complètement pris par les procédures. Une fois arrivé en orbite, il y a tout un tas de checks, de vérifications, de paramètres en lien avec le sol et sur les éléments à bord. Une fois qu'on est sûr que tout est bien passé, qu'il n'y a aucune situation non nominale, comme on dit dans notre jargon, là, on va pouvoir décrocher le harnais et puis pouvoir profiter un petit peu de cette légèreté du corps et avec ce corps libéré, aller regarder par le hublot.
Claudie Aigneret, c'est donc un lanceur privé, celui de la compagnie SpaceX de l'Américain Elon Musk, qui emmène cet équipage dans l'espace. Les Européens, eux, savent envoyer des satellites Ariane 6, l'a fait hier soir d'ailleurs, mais pas des hommes. Est-ce que techniquement, on aurait les moyens de le faire et est-ce que, selon vous, c'est souhaitable ?
Merci de célébrer la belle réussite d'Ariane 64 hier, ce tir magnifique. Alors effectivement, il y a des expertises, des compétences tout à fait exceptionnelles, à la fois parmi les ingénieurs et l'écosystème industriel et les agences. Après, vous savez qu'il y a des discussions politiques pour que les 23 membres de l'Agence spatiale européenne fassent des choix de priorité. On a les éléments, on prépare. Pour l'instant, on est sur une phase de préparation à ce potentiel de volabilité avec une capsule qui permettrait, après l'emport de fret, ce qu'on appelle un cargo, de pouvoir éventuellement se développer vers du vol habité avec le lanceur qui permettrait de l'atteindre. Mais ça, ce sont des décisions politiques qui ne sont pas prises encore. En tout cas, on est dans les phases de préparation. Oui, moi, bien sûr, je souhaiterais qu'on puisse avoir à un moment donné un équipage européen qui parte avec un vaisseau européen, un lanceur européen, d'un cosmodrome européen.
Claudie Agnoret, avec nous depuis Cap Canaveral, en Floride. Merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui.
Merci à vous.
Claudie Agnoret dans ce 13-14 entretien, enregistré il y a quelques minutes.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Retour sur le plancher des vaches. Les pieds dans l'eau, c'est la vie de millions de Français aujourd'hui après le passage de la tempête Niels. Tempête qui n'est pas la première. On a appris ce matin que cette tempête avait fait une deuxième victime, un homme de 84 ans, tombé d'une échelle dans son jardin hier près de Montauban. Il était en train d'élaguer. 450 000 foyers, eux, sont toujours privés d'électricité. Notre reporter Erwan Chassin s'est rendu à Mérignac, en Gironde, l'un des départements les plus touchés. Les équipes d'Enedis qui gèrent le réseau électrique sont à pied d'œuvre.
Dans cette rue de lotissement, des câbles à terre, des lignes arrachées sur lesquelles des techniciens et leurs camions bleus à nacelles s'affairent pour que 50 riverains retrouvent de l'électricité. D'apparence simple, ces travaux sont en fait assez complexes, explique Damien Bouzillon, encadrant de cette équipe Enedis.
Et du coup, là, il y a les trois câbles qui sont impactés, donc on est obligé de faire câble à câble, donc c'est quand même assez long à faire au quotidien.
Au bout de la rue, certains riverains regardent d'un air assez curieux ce qu'il se passe, espérant sans doute pouvoir ouvrir leur portail électrique dès ce soir.
Pas de pression des riverains, au contraire, ils sont plutôt très aimables avec nous, donc ouais, ils savent qu'on est là pour eux et qu'on fait vraiment au plus vite.
Mais non, on est compréhensif parce qu'on n'a pas envie d'injurier tout le monde, parce qu'on sait bien que c'est une tempête.
Et Catherine, sourcils froncés derrière ses lunettes embuées, doit faire figure d'exception.
Mais quand même, quand on voit tout le monde là et qu'on n'a ni frigo, ni réseau électrique, ni chauffage, ni cuisinière, que rien ne marche chez nous, ça me révulse. Parce que nous, on va acheter nos congélateurs et tout ça. Donc c'est les assurances qui vont payer ça.
Pourtant, Enedis assure faire au plus vite, soulignant une mobilisation exceptionnelle qui a déjà permis de raccorder près de 50% des clients privés d'électricité sur l'ensemble des départements touchés par la tempête.
Erwan Chassin, la Gironde comme le Lot-et-Garonne sont toujours en vigilance rouge. Selon le préfet du Lot-et-Garonne, le pic de crue sur la Garonne devrait être atteint demain. Dans les Alpes, le risque avalanche reste élevé, même si la vigilance orange, elle, est levée. Ainsi, à Tignes, en Savoie, après une nuit confinée, décision du maire, les habitants ont eu le droit de sortir ce matin et le domaine skiable a rouvert partiellement. Sur place, Christophe Vincent.
À Tignes, l'espace Kili a en partie rouvert dans d'excellentes conditions météo, mais peu de télésièges fonctionnent et forcément ça bouchonne.
Ça me fait très plaisir, mais j'aimerais bien que tout ouvre, mais je pense qu'ils font leur maximum. Sinon la neige est super, alors on profite, on est en vacances quand même. Il y a la dose de neige, il n'y a pas de problème. Ça se termine par une très belle journée.
Grand beau, mais pas beaucoup de remontées d'ouvertes, donc c'est un peu le bordel quoi. Il y a beaucoup d'attentes aux remontées, mais bon, c'est pour la sécurité tout ça. Et des quantités de poudreuses comme ça, c'est rare. Hein. Elle est excellente la neige, on se régale. Quand on peut descendre, on se régale. Le tout, c'est de pouvoir monter.
Le fort risque d'avalanche et le couvre-feu ont cassé l'ambiance, mais les commerçants approuvent la mesure, comme Alex, loueur de ski.
Donc c'est bien qu'il y ait ce système de prévention et que les gens fassent attention et que les autorités en amont fassent les bonnes choses. Ouais. Nous, c'est pas intéressant que les clients les retrouvent le nez dans la neige ou quoi que ce soit. Donc en tant que commerçant, nous, c'est pareil, on est là aussi pour sensibiliser. On a du matériel pour chercher les gens dans les avalanches, etc. Donc voilà, nous aussi, on est là aussi en prévention et on veut pas mettre nos clients qui sont des réguliers en danger non plus.
L'accalmie sera de courte durée. Demain, Météo France annonce de nouvelles chutes de neige en plein chassé-croisé des vacances.
Christophe Vincent à Tignes pour Inter. On va faire un point météo complet dans un quart d'heure. Dans les Deux-Sèvres, un élève de l'École nationale des sous-officiers d'active est mort ce mardi à Saint-Mexant-l'École. Ce jeune homme de 18 ans, engagé volontaire, était en exercice sur un site d'escalade. Il a été victime d'une chute de rocher au moment d'une descente en rappel. Ce drame pour de jeunes parents bretons, leur bébé de 4 mois est mort vendredi dernier après avoir été violemment secoué par son assistante maternelle. Ça s'est passé dans une commune près de Rennes. Cette femme est mise en examen, placée sous contrôle judiciaire. Elle reconnaît son geste, mais elle conteste son caractère intentionnel. Elle dit qu'il s'agissait de gestes de secours car l'enfant aurait été, dit-elle, en train de s'étouffer. Plus de 2 mois après le rappel des laits infantiles du groupe Nestlé pour des suspicions de contamination à une toxine, la France est toujours incapable d'analyser les poudres de lait. Alors la France choisit de confier les analyses de ces poudres à un laboratoire belge. Information de la cellule investigation de Radio France. Le choix a été fait en lien avec la famille d'Ilan Halimi. C'est un chêne sessile qui peut vivre 1000 ans, qui a été planté ce matin dans les jardins de l'Élysée à Paris à l'occasion de la cérémonie hommage rendue au jeune homme. Ilan Halimi, séquestré et torturé à mort il y a 20 ans, parce que ses ravisseurs pensaient lui extorquer une rançon. Lui, le vendeur de téléphone, payé au SMIC à la famille modeste. Aujourd'hui, les actes antisémites représentent plus de la moitié des faits anti-religieux dans notre pays, selon les derniers chiffres du gouvernement. Ce qu'a rappelé le président de la République ce matin, en avançant dans son discours, une explication.
L'antisémitisme d'extrême gauche, qui veut substituer à la lutte des classes une supposée lutte des races, dans de glaçants amalgames, et qui le dispute à celui de l'extrême droite et ses clichés sur la puissance et la richesse. Trop souvent, les peines délivrées contre les auteurs de délits et de crimes antisémites semblent dérisoires. Le gouvernement et le Parlement travailleront à un renforcement de la pénalisation des actes antisémites et racistes. Nos élus sont les sentinelles de la République et doivent le rester. Je souhaite qu'une peine d'inéligibilité obligatoire soit instaurée pour les actes et propos antisémites, racistes et discriminatoires.
Alors, vous l'avez entendu, le président de la République parle des clichés antisémites. Et bien précisément, l'Union des étudiants juifs de France a commandé un sondage à l'entreprise IFOP. Il en ressort que 26% des personnes interrogées estiment que les juifs sont plus riches que la moyenne de Français. Et un jeune de 18-24 ans sur 10 affirme que la Shoah n'a jamais existé. Clichés et complotisme ont donc la vie dure. Fawzi Trita, notre reporter, est allé ce matin à la rencontre de jeunes dans les rues de Paris. Je vous préviens, les propos que vous allez entendre sont choquants, mais nous avons choisi de vous les faire entendre car ils décrivent la réalité dont parle ce sondage.
Chez certains jeunes, il suffit de prononcer le mot « juif » pour avoir la liste de tous les clichés.
Ils ont des talles, ils ont de l'argent. En mode, c'est eux qui ont le pouvoir, en mode, c'est eux qui contrôlent tout. Faut pas parler d'eux, en gros, entre guillemets, faut pas parler d'eux, quoi.
Il dit qu'il n'y croit pas, mais hors micro, il me questionne. Mais tu le sais, ça aussi, pourtant, non ? Cette autre étudiante aussi croit à des clichés, sans trop savoir pourquoi.
Mais c'est vrai qu'on a tendance à penser que les juifs sont une communauté qui aime plutôt rester entre eux et qui ont les moyens de vivre, qui ont par exemple leur propre réseau de travail, d'affaires et ne se mélangent pas avec les autres. On a tendance à croire ce qu'on entend et de bouche à oreille.
Pour cet autre jeune, c'est à cause des réseaux sociaux. En témoigne l'affaire Epstein.
Juste le fait qu'il soit juif ou ce genre de choses comme ça. Et alors, on est toujours imprégné, même si on ne se rend pas compte. Alors là, on a forcément des biais, des stéréotypes. Et après, le souci, c'est que ça influence sur la réalité, quoi. Ça va amener de la violence, quoi. Ou des contradictions et des confrontations.
L'Union des étudiants juifs de France, de son côté, attend des annonces fortes de l'exécutif pour lutter contre tous ces stéréotypes.
En reportage dans les rues de Paris ce matin, Fawzi Trita. Là aussi, des juifs ont été visés. Mai 2023, l'attentat contre la synagogue de Djerba en Tunisie fait 5 morts, un policier et 4 pèlerins, parmi eux 3 Tunisiens et un Franco-Tunisien. L'auteur de la fusillade, un membre de la garde nationale tunisienne qui s'était radicalisé, cet homme a été abattu par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, le procès de cet attentat, procès qui s'est déroulé sur plusieurs jours depuis un an, ce procès s'achève. Le verdict va être rendu. Ce sont 6 complices présumés qui sont jugés, mais le caractère antisémite de l'attaque n'a pas été reconnu par le gouvernement tunisien. Bonjour Manon Lombard-Brunel.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Parvenir à suivre cette audience a été un véritable calvaire pour les victimes françaises et pour leurs proches.
Oui, car cette audience a été reportée 4 fois de suite, à chaque fois. Elodie Haddad a fait le déplacement depuis la France, pour rien, à chaque fois. Son frère Benjamin est l'unique victime française de cet attentat. Depuis sa mort, elle s'est battue pour avoir des informations sur le dossier, mais elle n'a eu que très très peu de réponses.
J'aurais voulu beaucoup plus d'informations concernant les événements, le manque de sécurité. Moi, ça fait partie de mes cauchemars ou de mes questionnements le soir quand j'arrive pas à dormir. Est-ce qu'il a eu le temps de réaliser ? Est-ce qu'il aurait pu le sauver ? C'est un anéantissement de notre vie de famille, de ma vie depuis 2 ans et demi. J'aurais tellement aimé être accompagnée. Là, je me suis débattue, mais seule.
Très peu d'informations des autorités tunisiennes, mais aussi françaises. Iris le déplore, elle aussi. Cette Française fait partie des pèlerins présents au moment du drame. Elle n'a jamais été interrogée par les enquêteurs tunisiens. Et comme la plupart des survivants, elle n'a pas pu se constituer partie civile.
Si on n'est pas partie civile, on ne sera pas reconnu comme victime. Et si on n'est pas reconnu comme victime, c'est que notre préjudice n'est pas reconnu, en fait. On n'a pas accès aux images de vidéosurveillance pour savoir ce qui s'est passé ce soir-là. On n'a pas accès aux éléments médico-légaux du dossier. C'est une opacité, en fait, qui nous empêche de réparer notre traumatisme.
Iris, comme Elodie est une nouvelle fois présente aujourd'hui en Tunisie. Cette fois, l'audience est bien en train de se tenir. Le verdict doit être rendu cet après-midi.
Manon Lombard-Brunel, au Tchad, le touriste français porté disparu depuis mercredi soir a été retrouvé mort après une chute, nous disent les autorités du pays. Il était parti visiter une oasis dans le Sahara. Aux États-Unis, le président Donald Trump a choisi, dès après son élection, et au motif de protéger son industrie, d'infliger à une large partie du monde des droits de douane. Le président américain a longtemps expliqué que cela remplissait les caisses. Mais au final, ce sont surtout les consommateurs américains qui ont payé la note. Bonjour Ajra Mohamed.
Bonjour Jérôme.
Ce que nous apprend une récente étude de la Fed, la Banque Centrale Américaine.
Oui, d'après cette étude de la Fed de New York, les Américains ont supporté 90% de la hausse de ces droits de douane, à la fois les citoyens et les entreprises américaines. Alors l'an dernier, Donald Trump avait décidé de surtaxer les produits en provenance de plus de 90 pays. Si on fait les calculs, la moyenne globale, ces droits sont donc passés de 2,6 à 13%. Alors les exportateurs avaient deux choix, soit baisser leur prix pour ne pas perdre de part de marché, soit répercuter cette hausse sur le prix payé par le consommateur à la caisse, notamment sur les aliments. Et en fait, la plupart ont choisi la seconde option. Ce qu'avaient prédit d'ailleurs plusieurs experts. Mais la Maison Blanche, elle préfère retenir d'autres chiffres, celui du chômage qui recule encore un peu dans le pays, des 130 000 emplois créés en janvier aux États-Unis et une inflation, oui, mais qui reste stable. Des chiffres excellents, bien meilleurs qu'attendus, a même commenté en début de semaine, Donald Trump, pas du tout prêt à remettre en question sa politique commerciale offensive.
Ajra Mohamed, en France, ce sont les recettes de la TVA qui intriguent les services du budget. Depuis 2023, Bercy se trompe chaque année sur ses estimations et cette taxe finit par rapporter moins que prévu. Il en manque en moyenne chaque année entre 8 et 11 milliards d'euros. Eh bien, on a les explications. Bonjour Mathilde Himy.
Bonjour Jérôme.
Consommation moins forte que prévu, un modèle de prévision dépassé et puis une fraude liée aux petits colis chinois.
Oui, avec un trou dans la caisse évalué, fourchette haute à 1 milliard d'euros de fraude aux petits colis venus de Chine. Soit ils ne sont pas déclarés, soit, et c'est la grande majorité, ils sont déclarés par les sites de vente en ligne sur le registre douanier européen, mais les sommes sont ensuite mal rétrocédées aux pays membres. Tout le système, en fait, est dépassé par les flux multipliés par 4 ces dernières années de petits colis, les contrôles fiscaux rendus inopérants, dit le rapport, par un manque de coopération entre douanes européennes. Les petits colis, d'ailleurs, ne sont pas les seuls. Bercy pointe aussi un manque à gagner lié à la sous-déclaration d'entreprise. Depuis 10 ans, on perd ainsi 6 à 10 milliards d'euros par an. Mais la majeure partie des recettes de TVA proviennent de notre consommation à nous. Et ces dernières années, on a beaucoup freiné dans nos dépenses. Achats de voitures, d'électroménager, immobilier, investissement des entreprises en baisse. Problème, dit l'inspection des finances, Bercy a un vieux modèle de prédiction et personne n'a voulu voir que ce modèle générait des erreurs qui ont creusé le déficit.
Mathilde Dehimy, il a été présenté hier dans le Jura, le décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, la feuille de route de la stratégie énergétique énergétique de la France a été publié ce matin. On vous l'a détaillé hier, ici même, avec cette accélération sur le nucléaire, ce coup de frein sur les renouvelables, tout cela pour produire davantage d'électricité. Problème, ce qu'on appelle l'électrification, le passage des énergies fossiles vers l'électrique se fait trop lentement. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Jérôme.
Donc cette feuille de route ne servira à rien si la consommation d'électricité ne décolle pas.
Oui, l'électricité ne représente aujourd'hui qu'un gros quart de notre consommation finale d'énergie. L'objectif est donc de passer à 40% dans 10 ans, c'est ambitieux. Alors comment inciter particuliers et entreprises à basculer massivement en mode électrique pour produire, pour se chauffer, pour se déplacer? Un grand plan d'électrification doit être annoncé ce printemps. Et pour le président de l'Union française de l'électricité qui réunit les producteurs, il n'y a pas 36 solutions, il faut la rendre plus attractive, donc moins chère. Christian Buchet.
Nous avons toujours en France une fiscalité qui est souvent 2 à 3 fois plus forte sur l'électricité qui est produite dans nos territoires que sur les fossiles importés. Donc oui, nous continuons d'appeler un choc de fiscalité sur l'énergie au bénéfice de l'électricité.
Un signal fiscal fort en faveur de l'électricité, voilà ce que lui répond ce matin Roland Lescure, le ministre de l'Économie.
Ça fait partie des débats qu'on va devoir avoir. Il a déjà eu lieu en partie à l'occasion du projet de loi de finances. Ce qui est vrai, on le sait, c'est que remplacer une chaudière à gaz par une pompe à chaleur, à terme, ça rapporte. Que remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique, à terme, ça rapporte. Qu'électrifier de l'industrie, à terme, ça rapporte. Mais qu'entre maintenant et le terme, il faut pouvoir accompagner des filières et des ménages qui, évidemment, n'ont pas nécessairement les moyens d'assurer cette transition.
En début d'année, le gouvernement a bien réduit, Jérôme, l'une des taxes comprises dans la facture d'électricité, sans pour autant que les Français s'en rendent vraiment compte. Les tarifs réglementés n'ont baissé que de 0,8%.
C'est ça. Merci Alexis Morel. La journaliste Sonia Mabrouk quitte définitivement les médias du groupe Bolloré après la chaîne CNews. Elle annonce ce matin sa démission de la radio Europe 1. Elle est en désaccord avec sa direction qui a décidé de maintenir à l'antenne l'animateur Jean-Marc Morandini, malgré sa condamnation définitive pour corruption de mineurs. Et on en vient donc à cette nouvelle médaille pour l'équipe de France aux Jeux d'hiver de Milan Cortina. Ça se passe en ski de fond. Alors normalement, c'est le parent pauvre de cette équipe de France. Pas cette année. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Jérôme.
Deuxième médaille, toujours pour le même homme, Mathis Desloges en argent sur le 10 km libre.
Il n'avait pas les mots, Mathis Desloges, à la fin de sa course, un peu comme nous, vous l'avez dit, parce qu'il nous surprend et il a expliqué seulement par l'entraînement. L'entraînement et encore l'entraînement, le fait qu'il soit dans la forme de sa vie sur ces Jeux Olympiques. Deuxième médaille d'argent, effectivement, en 5 jours dans le royaume des Norvégiens, après le skiathlon, l'individuel, 2 médailles qui n'avaient pas franchement été annoncées, prévues par l'encadrement en tout cas, mais que l'Isérois est allé chercher au bout de lui-même. Magnifique, hein, ce matin encore, tout au long de ces 10 km, il a tenu le rythme des Norvégiens justement et notamment de leur roi. Il termine à 5 secondes seulement de Johannes Klebe qui avec une 8e médaille d'or, le Norvégien lui égale le record sur ces Jeux d'hiver. Mathis Desloges et lui sur son nuage sur ces Jeux Olympiques, les sommets du ski de fond, il les découvre sous les yeux incrédules également de ses coéquipiers, hein, qui eux non plus, ils nous l'ont dit, ne l'attendaient pas à ce niveau. Mathis Desloges avait, souvenez-vous, cassé sa première médaille d'argent, et bien le voici donc en possession d'une deuxième pour la remplacer.
On espère qu'elle est plus solide. Merci Nicolas Perronnet. Il y aura peut-être d'autres médailles cet après-midi. Dans 3 minutes, le début de l'épreuve de snowboard cross pour les femmes avec Chloé Trespech, l'une des porte-drapeaux de cette équipe de France. 14h, le départ de l'épreuve du sprint en biathlon avec Éric Perrault, déjà médaillé. Mais tout cela, les Italiens auront peut-être du mal à le voir à la télévision publique italienne. La RAI avec une grève aujourd'hui qui illustre les tensions que traverse la chaîne publique depuis le début des Jeux. C'est le chef des sports qui est en cause dans une maison contrôlée de très près par le gouvernement Meloni. Ses commentaires déplorables lors de la cérémonie d'ouverture ne sont pas passés inaperçus, Bruno Duvic.
Un communiqué lu à la fin de chaque JT aujourd'hui. Les journalistes grévistes de la RAI ne signeront pas leur reportage. Le chef du service des sports a endommagé l'image de la maison et aucune sanction n'a suivi. Voilà pour la manifestation de colère légère. On ne pouvait pas faire plus en plein JO. Le coupable s'appelle Paolo Petreca, commentateur de la cérémonie d'ouverture à Milan. Dès les premières secondes, il se plante, accueillant les téléspectateurs au stade. stade olympique, qui est à Rome, avant de se reprendre, cela peut arriver, mais il a multiplié les bourdes, certaines problématiques, comme ces Brésiliens qui ont la danse dans le sang, dit-il, au moment où les athlètes défilent. C'est gênant quand on est chef, que l'on s'est imposé au micro et qu'on a une légitimité fragile, car Paolo Petreca doit son poste à sa proximité avec la majorité Meloni, éternel problème des nominations politiques à la RAI. Les mécontents promettent une vraie grève après les JO. Y aura-t-il des sanctions à ce moment-là, alors qu'en plus la gestion du budget des sports fait polémique? Pas sûr, la RAI est bien verrouillée. Aujourd'hui, en plus du communiqué des mécontents, un autre a été lu, celui du syndicat proche du gouvernement.
Explication Bruno Duvic à Rome, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta, ça va vous intéresser par exemple si vous êtes en vacances. À partir de ce soir, 13h30 ou un petit peu plus, le paléogénéticien Ludovic Orlando avec nous, grand spécialiste du cheval. On parle de sa domestication, une expo en ce moment à Toulouse. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, les municipales en Bourgogne. Nous serons à Tournu, commune qui séduit de plus en plus d'habitants. Et puis 13h50, c'est la France. Et c'est une chanson, Virginie Troussier et Julien Baldacchino. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Virginie, hommage à un scientifique et poète.
Oui, Martin de la Soudière, un écrivain arpenteur des Pyrénées qui faisait parler la brume et les reliefs et nous rappelait que le paysage est d'abord une affaire de cœur.
Et avec vous, Julien, une comédienne.
Laura Presgurvic qui va mettre en scène la nouvelle version de la comédie musicale Roméo et Juliette et qui, avant ça, nous parle de la lettre de Rosalie lue par Romy Schneider.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
France Inter, 11h, Christophe Galfard.
70% de l'énergie de notre univers semble exister sous une forme mystérieuse qui pourrait avoir le destin du cosmos entre ses mains. C'est l'énergie sombre.
Big Bang.
C'est tous les samedis à 11h sur France Inter.
Chez Optique 2000, on sait que vous avez sûrement des vieilles lunettes cachées chez vous. Jusqu'au 15 mars, on vous offre 50 euros de remise immédiate sur une nouvelle paire si vous nous les rapportez. Allez, on vous laisse chercher. Dans votre tiroir fourre-tout ou dans vos vieux cartons qui dorment au fond du garage. Bref, si vous retrouvez vos vieilles lunettes, rapportez-les chez Optique 2000. Votre opticien vous offre 50 euros de remise immédiate sur votre nouvelle paire. Optique 2000, on va se revoir. Voir conditions en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
France Inter, partenaire du film Les Dimanches, de Alauda Ruiz de Azúa, réalisatrice de la série Querer. Ainara, 17 ans, élève brillante dans un lycée catholique, annonce à sa famille vouloir embrasser la vie de religieuse.
Eso es serio, de la vocación.
Cette vocation inattendue prend tout le monde au dépourvu. L'incompréhension s'installe et divise la famille.
Tienes 17 años, Ainara.
Déjala respirar.
Les Dimanches, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, torréfacteurs engagés depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Encore du gris et de la pluie cet après-midi.
Oui, un scénario qu'on commence à bien connaître avec ce défilé de perturbations qui n'en finit pas. Et j'ai regardé mes cartes, on aura une accalmie demain sur l'ouest du pays avec même pas mal de soleil. Profitez-en, l'humidité sera de retour dès dimanche et les perturbations, elles vont encore s'enchaîner toute la semaine prochaine. Alors revenons à notre après-midi, il y a quand même un secteur qui devrait rester au sec avec même quelques éclaircies de la Franche-Comté à la région PACA, mais partout ailleurs, on n'est pas à l'abri d'une averse avec les plus importantes et les plus régulières, surtout entre le nord-ouest et l'Île-de-France, est en ce moment. Ces averses, elles vont s'étendre vers le nord-est, la Lorraine, les Ardennes dans la soirée, mais aussi près de la Méditerranée avec l'arrivée d'une deuxième perturbation entre le Languedoc-Roussillon et le sud du Massif central. La région PACA sera touchée à son tour par ces pluies dans la soirée.
Toujours des risques d'avalanches dans les Alpes.
Oui, alors on a un temps plus calme et je vous le disais, quelques rayons de soleil sur le secteur, ça donne envie d'en profiter, mais pas d'imprudence. Le risque est toujours de 4 sur 5 sur les principaux massifs. On a également encore 23 départements vigilants crue sur une large partie ouest du pays et des températures encore douces. 10 à 16 degrés, ça c'est cet après-midi. Demain, la moyenne ira de 3 à 11 degrés demain après-midi. On a de l'air polaire qui arrive et là, la chute va être...
C'est nettement plus froid.
Ça remonte à partir de dimanche soir quand même.
Céline Dacosta.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Il n'y a pas que la Cité de l'Espace à Toulouse, cité où nous étions il y a quelques minutes et on a suivi avec beaucoup d'attention le décollage de Sophie Adnaud ce matin. Il y a aussi un centre d'anthropobiologie et de génomique. Et vous en êtes le directeur Ludovic Orlando. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous depuis les locaux d'ICI Occitanie pour parler de cette longue aventure qu'a été la domestication du cheval. On a dans l'actualité tous les jours 1000 illustrations de la relation extrêmement complexe entre l'homme et l'animal, entre l'homme et le cheval. Et cette relation est à l'honneur en ce moment au Muséum de Toulouse pour l'exposition « Domestique-moi si tu peux ». J'ajoute que vous êtes aussi directeur de recherche en archéologie moléculaire au CNRS et spécialiste de l'étude des ADN anciens. C'est un sujet qui, je suis sûr, va vous passionner, vous qui nous écoutez. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous passez également par l'application France Inter et l'onglet Réagir. Ludovic Orlando, cette histoire, elle a commencé et vous avez réussi à l'établir après plusieurs années de recherche. C'était l'été dernier. Vous avez pu établir que cette histoire, cette domestication, elle s'est effectuée entre moins 2700 et moins 2200 avant Jésus-Christ. Comment avez-vous réussi à dater tout cela ?
Alors déjà, je dois dire, bon, l'info est juste, hein, je dois dire que c'est peut-être un peu surprenant pour tout le monde d'apprendre ça, parce que c'est il n'y a pas si longtemps en fait, hein, ça fait moins de 5000 ans.
C'est ça.
Et en fait, la plupart des autres grands herbivores avaient déjà été domestiqués depuis des milliers d'années avant ça, hein. Je pense à la chèvre, au mouton, à la vache et à d'autres encore. Donc finalement, les humains et les chevaux se sont rencontrés très tard dans notre histoire. Et ça, on a pu l'établir tout simplement parce que, alors moi je voyage pas dans l'espace, hein, avec les envois spatiaux, mais en fait je voyage dans le temps.
Beaucoup de voyages à Toulouse.
Voilà, c'est ça. On est capable de lire l'information qui est inscrite dans les molécules d'ADN. Et des molécules d'ADN qui ont survécu jusqu'à nous depuis des centaines d'années, des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années. Donc en fait, on est capable de, en relisant la molécule d'ADN de jadis, on est capable de comprendre eh bien, l'histoire des êtres vivants jusqu'à nous aujourd'hui.
Comment vous avez procédé, Ludovic Orlando ? Vous trouvez des restes de chevaux morts il y a plus de 4000 ans et vous les analysez et vous en tirez des conclusions ?
C'est exactement ça, en fait. Il faut imaginer que, quand je dis l'ADN, c'est pour aller vite. En fait, pour le cheval, très précisément, c'est quelque chose comme un peu moins que 3 milliards de lettres. Pour vous faire une comparaison simple, l'œuvre entière de Marcel Proust, c'est 10 millions de lettres, hein. Donc vous avez plusieurs centaines de fois l'œuvre de Proust dans chacun des chevaux, en fait. Donc comme Proust a raconté beaucoup d'histoires avec 10 millions de lettres, vous imaginez le nombre d'histoires que l'ADN du cheval nous raconte et enregistre de génération en génération, alors que ce message se transmet le long des familles de chevaux. Jusqu'à nous aujourd'hui.
Donc on arrive à reconstituer ce qu'était un cheval, on va dire, il y a 8000 ans, et ce qu'il était il y a 4000 ans, une fois qu'il est domestiqué. Et quelle est la différence ? Qu'est-ce qui nous fait dire, ah là on a un cheval qui est domestiqué, et là on a un cheval qui est parfaitement sauvage ?
Alors ça, c'est une question qui est difficile en fait, parce que c'est pas comme s'il y avait des gènes qui étaient programmés pour être domestiques. Donc en fait, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt des signaux dans l'ADN où tout à coup, la situation change. Par exemple, si vous voyez qu'il y a dans le monde des tas de types de chevaux différents, je pense par exemple aux chevaux qu'on avait ici, aux chevaux qui existent en Anatolie ou ailleurs encore, qui étaient des familles différentes, eh bien si tout à coup vous voyez qu'il n'y a plus qu'une seule famille qui se répand à travers le monde, c'est le signe que cette expansion n'est pas naturelle, donc sûrement imposée par les humains qui se servent des chevaux pour se déplacer avant tout à des échelles incroyablement rapides et incroyablement lointaines. Donc ça, c'est un des premiers signaux qu'on a retrouvé pour dire, en effet, aux alentours du milieu et de la fin du troisième millénaire avant notre ère, comme vous l'avez dit, eh bien, tout à coup, il y a une famille de chevaux qui est très répandue à l'échelle de la planète, et c'était pas le cas avant. L'autre chose qu'on peut regarder, c'est ces lettres qui sont l'alphabet génétique, eh bien, elles font pas toutes la même chose. Et il y en a qui vont, par exemple, nous raconter quelle couleur avaient les chevaux à telle époque et à tel moment. Il y en a d'autres qui vont même nous raconter, et ça va vous surprendre, leur vitesse de sprint. On va pouvoir, alors que les chevaux n'existent plus qu'à l'état d'os et de dents, hein, le registre archéologique, eh bien nous, on est capable, par l'ADN, d'une certaine manière, de les refaire se mouvoir, hein, plusieurs milliers d'années après. Et donc, parmi ces lettres, on en trouve certaines qui, par exemple, vont nous dire qu'il y a eu des changements sélectifs, donc là encore, hein, par la main des humains, des choix de reproduction très forts qui ont été faits pour ne maintenir qu'un type de chevaux, eh bien, ces changements de lettres ont été, par exemple, pour des changements de comportement. Les chevaux ont pu devenir ainsi plus dociles et donc beaucoup plus faciles à interagir avec les humains. Mais aussi, et la lettre qui a le plus changé pour nous, donc dans nos travaux, on a découvert ça, c'est une lettre qui est responsable de la locomotion des chevaux. En fait, cette lettre-là, si vous la changez, Par exemple, si vous la changez chez des animaux de laboratoire, par exemple les souris, c'est ce qu'on a fait nous, eh bien vous voyez que ces souris, elles vont avoir une capacité à se mouvoir très différente.
Mais ça veut dire qu'un cheval domestiqué va plus ou moins vite qu'un cheval sauvage ?
Alors là, il n'y a pas de règle. En fait, nous, nos travaux montrent...
Vous dites qu'il y a une différence de vitesse ?
Ouais, alors de vitesse, mais pas forcément vers la plus grande vitesse ou vers la plus petite vitesse, c'est plutôt des différences de locomotion. Donc la capacité à se mouvoir et en fait à coordonner ses mouvements à plus grande vitesse ou à moins de grande vitesse est améliorée chez les chevaux domestiques. Donc voilà en ce sens ce qu'on a pu montrer. D'autre part, plus tard dans l'histoire, donc là on n'est plus dans le 3e millénaire avant notre ère, mais on parle plutôt du milieu du 18e siècle et ensuite, évidemment, avec l'émergence des chevaux qu'on appelle aujourd'hui les pur sang anglais, là ce sont les bêtes qui sont capables d'aller à les vitesses les plus folles aujourd'hui. Hein. Et l'on voit bien dans le texte de l'ADN, si je puis dire, que certaines lettres qui participent de la vitesse de pointe au sprint des chevaux ont commencé à devenir dès lors de plus en plus fréquentes dans les populations de chevaux.
Pierre est en ligne avec nous, il nous appelle du Rhône. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, merci de prendre ma question. Je voudrais savoir quelle différence en tant que mensuration y a-t-il entre les premiers chevaux domestiqués et les chevaux actuels.
Merci Pierre pour cette question, Ludovic Orlando.
Merci Pierre, donc ça va vous surprendre sûrement. Au début de la domestication, donc on va dire au milieu du 3e millénaire, eh bien les chevaux, c'est pas des animaux de grande taille. En fait, au garrot, ce sont des animaux qu'on appellerait volontiers aujourd'hui, des poneys plutôt d'un point de vue de leur taille. On parle d'à peu près 1m30 au garrot, quelque chose comme ça en moyenne. Et au cours de l'histoire de la domestication, donc dans les millénaires qui ont suivi, eh bien la taille des chevaux a augmenté, mais relativement tardivement en fait. Il est indiscutable qu'au moment de l'Empire romain, donc on est au début de notre ère, là, eh bien, les chevaux, en moyenne, ont pris quelques centimètres au garrot. Et pendant le Moyen-Âge, eh bien, certains chevaux sont devenus un petit peu plus grands, d'autres ont été sélectionnés pour rester à des petites tailles, et si bien que la diversité des tailles a complètement explosé. Si bien qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, le percheron avoisine les 1m80 au garrot, alors que le falabella, lui, ne fait que 60 centimètres au garrot. Donc, toutes les tailles, finalement, finissent par exister du fait de la domestication.
Vous avez commencé ainsi, Ludovic Orlando, est-ce qu'on sait pourquoi il a été plus compliqué pour l'homme de domestiquer le cheval que d'autres espèces ? Vous parliez des chèvres, mais il y en a beaucoup d'autres.
Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'était plus compliqué. En tout cas, ça a été plus tardif. Ça, c'est le fait indiscutable. Et je pense qu'il y a quelque chose comme une contingence. Il faut dire qu'il y a 2200 ans avant notre ère, il y a un grand épisode d'aridité. Le climat devient plus sec, notamment dans les steppes du sud-ouest de la Russie, au nord du Caucase, là où la domestication des chevaux a lieu. Et donc, il n'y a pas à avoir beaucoup d'imagination pour se rendre compte que si les steppes deviennent arides, pour des éleveurs qui vivaient dans le coin, eh bien, peut-être faut-il se munir d'un nouveau véhicule qui nous permet d'aller chercher l'herbe là où elle est plus verte, pas là où on reste. Et donc peut-être que ça a été juste ce signal qui a été la réponse par les humains d'une recherche d'un nouveau véhicule qui a été fourni par les humains. D'ailleurs, au même moment que le cheval devient domestique, eh bien la roue à rayon apparaît pour la première fois de notre histoire et d'ailleurs les chars qui vont être tirés par les chevaux.
La domestication du cheval, qu'est-ce que ça change pour nous, pour notre histoire ? Est-ce que c'est une révolution comparable à l'invention du train ou à l'invention du moteur à explosion, par exemple ?
Alors moi, je rejoins très volontiers des historiens qui sont très sérieux et qui expliquent que très souvent, en proto-histoire, on parle de l'âge du bronze, puis de l'âge du fer, et puis etc. Et qu'en fait, il faudrait penser tout ça comme un âge de avant le cheval et un âge après le cheval. Mmh. Parce qu'en fait, dès lors qu'on a domestiqué le cheval, ben imaginez-vous ça, hein, on peut se déplacer à des vitesses incroyables, pour nous, beaucoup plus rapidement qu'à pied. Si bien que le cheval a, de facto, lancé le premier événement de globalisation du monde. Je veux dire qu'à après lui, on peut aller plus loin, plus vite. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir échanger avec nos voisins, mais nos voisins toujours plus lointains, beaucoup plus de choses. Notre culture, nos objets, notre religion, et même y compris nos germes, voire nos gènes, en ayant des enfants ensemble. Donc, il faut imaginer qu'après le cheval, toute la dynamique de l'histoire humaine a changé. Et d'ailleurs, jusqu'à il y a très peu de temps, en fait, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, à Paris, là où vous êtes, eh bien, il y avait, vous voyez encore des portes cochères, il y avait des chevaux partout. En fait, l'humanité se mouvait grâce aux chevaux, tout simplement. Et même pendant les guerres, y compris jusqu'à la Première Guerre mondiale, voire la Seconde, eh bien, ce sont des chevaux qui sont morts par millions, en fait. Donc, jusqu'à il y a très très peu, Dire que l'histoire humaine et l'histoire des chevaux étaient liées, c'était une évidence pour tous. C'est moins une évidence aujourd'hui parce qu'ils ont disparu de notre espace, surtout en Occident, puisqu'il n'y a sur Terre plus que 60 millions de chevaux domestiques. C'est-à-dire qu'il y a plus de Français qu'il y a de chevaux domestiques.
De chevaux domestiques sur Terre. Est-ce qu'il y a toujours des chevaux sauvages ?
Alors là, c'est l'information qui est plutôt triste que j'ai à partager avec vous, c'est qu'en fait, très longtemps, on a considéré que le dernier cheval sauvage qui existait sur Terre est le cheval de Przewalski. Hein. Vous voyez, en France, il y a des réserves de préservation de cet animal qui a été menacé d'extinction dans la seconde moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, il en existe à peu près 3000 sur Terre. Ces 3000 descendants, ils descendent tous d'individus qui ont été préservés dans des zoos. Donc au sens sauvage, vous voyez, ce sont pas des animaux qui sont restés dans leur milieu immaculé et préservé de nous. Mais d'autre part, nous, on a montré par nos travaux que les chevaux de Przewalski, ils ont un ancêtre très curieux. Cet ancêtre, c'est en fait un des premiers chevaux qu'on a essayé de domestiquer, mais finalement, cette expérience de domestication a comme avorté, parce que les domesticateurs ont eux-mêmes disparu, donc avec eux, le fruit de leur domestication, et donc le cheval qu'ils avaient domestiqué a pu retourner à l'état sauvage et devenir celui qu'on appelle le cheval de Przewalski.
Est-ce qu'on peut imaginer un jour, Ludovic Orlando, un réensauvagement ? Est-ce que ça pourrait exister ?
Alors, j'ai du mal avec ce mot, comme beaucoup d'entre nous, mais par contre, ce qui est peut-être plus immédiatement concevable, c'est que, vous savez, aujourd'hui, des gens comme moi, mon laboratoire, peuvent lire l'ADN, c'est-à-dire décrypter l'ensemble de l'information génétique. Mais d'autres personnes sont spécialisées dans l'édition de l'ADN, c'est-à-dire dans l'écriture de l'ADN. Et à ce jour, et c'est pas du tout de la science-fiction, il y a des gens qui ont cloné des chevaux, mais qui les ont aussi modifiés, notamment deux types de chevaux, les chevaux de Przewalski dont je parlais, mais où alors des chevaux du polo, du sport, le polo, pour les rendre tantôt plus rapides ou tantôt plus robustes, etc. Et donc, on peut imaginer, avec ces outils qui existent, hein, qui ne relèvent pas de la science-fiction encore une fois, on peut imaginer que certaines des mutations qui sont caractéristiques des domestiques puissent être, d'une certaine manière, réversées pour les remettre à l'image de ceux qui fut jadis le cheval sauvage. Cependant, si on faisait ce travail, il faut imaginer qu'il y a des millions de lettres à modifier, hein, et donc je souhaite bonne chance à toutes celles et ceux qui se lanceraient dans ce travail-là.
Est-ce que vous êtes encore surpris, ce sera ma dernière question, Ludovic Orlando, par la richesse de la relation entre l'homme et le cheval ? Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'usages qui ont disparu, mais on parle aujourd'hui par exemple d'équithérapie. Il y a des chevaux qui interviennent auprès de malades en soins palliatifs, qui viennent leur apporter des choses. Est-ce que ça continue de vous surprendre, vous qui connaissez parfaitement cet animal ?
Alors maintenant que je connais cet animal de très très près, ça ne me surprend absolument pas. Celles et ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'être près une fois dans leur vie d'un cheval se rendent bien compte d'à quel point on a le sentiment profond de communiquer sans les mots avec un autre être vivant. Le cheval fait partie de ces animaux qui ont cette capacité immense à nous calmer, à nous comprendre, à nous lire. Et c'est d'ailleurs grâce à cette capacité profonde et vraiment puissante de cet animal qu'on a pu être accepté sur son dos et développer cet art équestre fabuleux avec lui.
Merci Ludovic Orlando, c'était passionnant, on vous écouterait pendant des heures. Merci d'avoir été avec nous en direct de Toulouse. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, domestique-moi si tu peux, cette exposition en ce moment au Muséum de Toulouse, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, les municipales vues de Bourgogne, Laurence Perron sillonne la Saône-et-Loire depuis le début de la semaine, non pas à cheval mais à vélo. Et aujourd'hui, halte dans une commune dynamique qui gagne des habitants, c'est Tournu. 6000 habitants, de nouveaux venus séduits entre autres par les prix de l'immobilier et le dynamisme des associations culturelles.
Très sympa, moi-même je suis de Marseille et je ne veux pas repartir. C'est plus vivant ici parce qu'ici c'est une famille. Là on va faire les dessins pour la Saint-Valentin. Pour les personnes qui sont seules, on va leur mettre plein de dessins sur les portes pour la Saint-Valentin et tout. Toujours ensemble, on travaille. Non, mais c'est le top ici, tournez, il faudrait que vous veniez ici. Chez ta soeur, c'est à 2 minutes. Tu vas tout droit, c'est le kebab et c'est à côté.
Bonjour. Super.
On est dans un ancien trésor public, qui est le bon trésor public, on l'a appelé comme ça, qui est le deuxième lieu de l'association Chez ta sœur. Une association culturelle qui propose en fait depuis 2019 des ateliers de création artistique. On est souvent sollicité par des gens qui viennent d'arriver pour participer à nos ateliers ou pour être exposants dans les marchés de créateurs. Et on se rend compte finalement qu'il y a quand même pas mal de monde qui arrive soit à Tournu, soit autour de Tournu.
Quelqu'un veut un café aussi ou pas?
Allez,
non, merci.
Bonjour.
Je
vais les faire si tu veux.
Alors moi je suis Sébastien. Et effectivement, moi, je ne suis pas à Tournu depuis longtemps. Je viens de déménager au mois d'août ici. Je viens de Montreuil, une ville du 93 en région parisienne. Bon, Montreuil, c'est une ville hyper dynamique, surtout au niveau culturel. On a un peu une idée un peu sectaire des fausses, en fait, de ce qu'on peut trouver en province. Et j'ai découvert à Tournu, c'est vrai, un dynamisme et une richesse culturelle que je ne m'y attendais pas, quoi. C'est pour des questions économiques, en fait. La gentrification, Montreuil, les prix qui augmentent, c'est compliqué de rester en région parisienne. Il faut gagner beaucoup de sous.
Ah, bonjour. Ah, vous êtes Elisa.
C'est ça. Donc, moi, je travaille au Galpon, à Tournu. C'est une salle de spectacle, un tiers lieu. Enfin, je vous en parlerai après. Mais par contre, pour l'histoire de Tournu, alors, la mairie, elle est quand même soutenante. Franchement, voilà, même si parfois, on sait un peu... je vais me faire tuer, moi. Un des projets du département, ce serait d'implanter ce qu'ils appellent le parc éclat, qui serait, si on comprend bien, une sorte de puits du fou local. Et alors, en 2023, au Festival des Tours en Tournugeois, il y avait un crieur public qui fait des criers. Et à un moment donné, il a crié des choses sur des accointances entre le privé, le public, etc., etc. Et sur le parc éclat, il a fini sa criée par « Prochaines ZAD de France à Tournu », etc. On nous a soupçonné de téléguider les propos du crieur, ce qui n'est pas le cas. Enfin, pour le coup, on ne lui dit rien, histoire de ne pas se mettre... Il fait son boulot, il vient 2-3 jours avant, il parle aux habitants, il va dans les bars, etc. Puis après, il crie ce qu'il veut. Et ça a fait un petit froid pendant, une petite année. Puis voilà, il y a eu l'année d'après, la paix entre le maire et le crieur au festival. Voilà, voilà.
Si la paix est revenue, alors tout va bien à Tournu. Une semaine dans leur vie en Bourgogne, à retrouver sur l'application Radio France.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le vendredi 13h50, la France des cimes et des océans, avec Virginie Troussier. Aujourd'hui, Virginie, vous vouliez rendre hommage à l'écrivain et ethnologue Martin de la Soudière qui vient de mourir.
Quand un écrivain aimé meurt, c'est soudain la stupéfaction. On peine à réaliser qu'on ne le lira plus jamais. N'avait-il plus rien à dire ? On se tourne vers notre bibliothèque, on rassemble ses livres, on les aligne devant nous. On essaie d'y trouver un ordre, des thèmes majeurs, même si la littérature, c'est la vie, elle épouse nos mouvements, nos bifurcations. Cela nous rassure d'y mettre de la cohérence, alors même que surgissent l'éclat, le pas de côté, la belle anomalie. Et cela, Martin de la Soudière, adepte du vagabondage, l'aurait sans doute confirmé. Certains tropismes se dessinent néanmoins chez lui, et j'en perçois un qui éclaire notre rendez-vous hebdomadaire, c'est la montagne.
La montagne et les Pyrénées particulièrement.
Oui, les Pyrénées, c'était sa carte du tendre, parce qu'il y a passé tous ses étés d'enfance. Il revendiquait pour ce massif une mention spéciale. Il aimait les montagnards, trouvait qu'en leur compagnie se déployait une expérience sensorielle très forte. Il se souvenait de la vue de l'Aneto, toit de la chaîne avec ses 3400 mètres. Il gardait en mémoire sa première nuit en altitude pour gravir le Royo. Ces montagnes de l'enfance lui ont, à son insu, fourni un mode d'emploi du paysage, une manière de le regarder à travers différents filtre, la mémoire, la science, les émotions. Il n'a jamais été attiré par les hauts lieux, ne visait pas l'exploit, mais plutôt la marche exploratrice. Il y fit l'expérience de la verticalité, des cairns, de la brume, et la montagne lui donna le goût des saisons.
Et Martin de la Soudière, parmi les saisons, aimait l'hiver, c'était même sa préférée.
Oui, il faisait partie des météosensibles, ces êtres dont les états d'âme suivent les états du ciel. Dans son livre « Au bonheur des saisons », il regrettait que nous ayons réduit la météo à une opposition simpliste entre beau et mauvais temps. Oublions que chaque ciel porte son propre bonheur. Dans un autre de ses textes, « Quartier d'hiver », il jetait son dévolu sur cette saison rude. Il avouait avoir besoin de sa ration de froid. Il aimait le degré zéro, au-dessous duquel rien n'est pareil. Il préférait l'hiver car il faut savoir y vivre quand l'air devient coupant, que la neige creuse les distances. Mais dès qu'on y demeure un peu, le regard se fait plus vif.
Ce qu'on retient surtout, c'est qu'observer le ciel est une manière si belle de se lier.
Au fond, Virginie, cet écrivain nous invite à ralentir, mais surtout à ressentir.
Tout à fait, il était un géographe aux antennes poétiques, maniant des concepts traversés de sons et de couleurs, choisissant une langue de proximité qui recouvrait des développements de professeur. Le sensible, c'est ce qui retentit en nous. Comment ne pas utiliser ce merveilleux outil pour penser ? Toujours est-il que lorsqu'un écrivain meurt, il devient ses mots. C'est pour cela peut-être que son ami, le poète Philippe Jacotet, disait que ce serait beau de terminer une œuvre par le mot « torrent ». Pour ma part, je n'avais pas lu le dernier livre de Martin de la Soudière, par Mons et par Vaux, paru il y a 3 ans. Alors j'ai couru en librairie, je l'ai ouvert à la toute dernière page, j'ai traqué le dernier mot. Eh bien ce dernier mot, c'est « vivre ». Oui, vivre. Était-ce voulu ? Peu importe, le message est reçu et le pacte honoré. Martin de la Soudière nous aura sans doute tout dit, et du haut des cimes, de ce point de vue exigeant qu'il prenait, on le remercie.
Vivre, dernier mot de l'œuvre de Martin de la Soudière. Merci Virginie Troussier, avec nous chaque vendredi dans ce 13-14. C'est une chanson, Julien Baldacchino. Avec vous aujourd'hui, une comédienne qui est aussi metteuse en scène.
Laura Presgurvic, qui a annoncé ce matin même le retour du spectacle musical Roméo et Juliette l'an prochain, 18 ans après sa dernière tournée en France. Spectacle écrit par son père, Gérard Presgurvic, et c'est elle qui assurera la mise en scène de cette nouvelle version. Elle nous parle de la lettre de Rosalie, lue par Romy Schneider dans le film César et Rosalie.
J'étais très jeune, je me souviens pas du moment précis, mais je sais que mon père avait une obsession de Claude Sautet, qui m'a donné en héritage. Les films de Claude Sautet m'ont bouleversé, m'ont parlé, et notamment cette chanson dans ce film, César et Rosalie, qui est mon film préféré.
C'est une maison qu'on avait oubliée, car elle a dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûre que ce n'est pas la même. Mais tu sais comment sont les choses qu'on aime. On a beau les repeindre, le vent se levait lundi.
Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, elle me va droit au cœur. Par exemple, quand elle dit « j'ai acheté 2 robes au marché du matin, une petite blanche et une petite bleue ». Non, pour les robes, c'est pas vrai, mais je te dirais n'importe quoi pour parler de moi. Je trouve ça tellement beau. Je trouve que c'est de la poésie et c'est une musique qui me brise le cœur à chaque fois que je l'écoute.
Le fait que ce soit un texte parlé sur de la musique, ça apporte une émotion particulière ?
Je trouve. Moi, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup les chansons qui sont à moitié parlées, comme « Le temps qui reste » de Reggiani. Je trouve qu'il y a un charme. Après, j'adore les chansons chantées. Moi, ce qui compte, c'est les textes. Je suis extrêmement fan des textes d'Abadi, qui a écrit les plus grandes chansons, à part celle de mon père, sinon je vais me faire engueuler. Mais en plus, je le pense. Mais c'est des choses très similaires. C'est des chansons vraiment à texte. Moi, j'aime pleurer sur les chansons.
Pour l'Europe, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourne, c'est le nom que je lui donne.
Pour moi, je ne sais plus qui avait dit cette phrase, mais je trouve ça extrêmement juste. Une chanson, on y va pour la mélodie, on y reste pour le texte. Et je trouve que c'est extrêmement vrai. Et j'aime beaucoup les chansons qui racontent vraiment des histoires, qui me donnent des images, des chansons cinématographiques. C'est sûrement pour ça que j'ai choisi celle-là.
Et la voix de Romy Schneider, qui est reconnaissable entre mille, elle vous marque aussi, elle vous parle aussi.
Ah oui, ah oui.
J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas. Et si je t'écris que je suis triste, c'est malhonnête, mais je le sais.
Cette femme, je trouve que c'est la beauté, la grâce incarnée, l'intelligence. C'est pour ça, je pense aussi, que j'ai été très attachée au film de Claude Sautet, parce que les femmes sont très bien représentées. Elles sont toujours intelligentes.
Où tu es ? Tu vis et tu ne réponds pas. Évidemment, Marité a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux.
La voix de Romy Schneider sur les notes de Philippe Sard.
Et sur ce thème persistant, presque hypnotisant, qui accompagne Laura Presgurvic depuis longtemps.
C'est en fait une musique et une chanson qui me touche depuis toujours, donc je l'écoute quand j'écris, pour rester connectée à ce que j'écris et connectée à mes émotions. Et l'année dernière, donc, j'ai écrit une pièce, je l'ai écrite en écoutant la chanson en boucle, pour être sûre de pas me déconnecter de ce que je racontais. Donc le processus d'écriture n'est pas très joyeux, parce que je pleure souvent, mais ça me garde dans le moment. J'ai besoin de revenir à quelque chose de très sensible, de très profond, donc de très ancien. Et oui, je pense que les chansons et les musiques qui nous ont marqués enfants restent.
Et il y a un effet de l'écoute en boucle. Souvent, on dit que On peut avoir des obsessions de chansons, ça provoque quelque chose de particulier quand on écoute la même chanson 2, 3, 4 fois, voire plus.
Moi, j'ai tendance à faire ça. Moi, j'ai tendance à m'épuiser sur une chanson quand je l'aime. Je l'écoute. Et puis après, je fais une pause. Et les chansons, vraiment, les grandes chansons, de toute façon, elles peuvent vous suivre toute une vie. C'est drôle, j'entendais il y a quelques jours, j'ai vu une interview de Kassovitz qui disait qu'il détestait la musique sur ses films. Moi, je ne comprends pas. Je trouve ça intéressant parce qu'il a fait des films géniaux. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, dès qu'il y a de la musique, le mépris, par exemple. Moi, les films, je m'en souviens très souvent grâce à la musique.
Et quand vous faites la mise en scène d'une comédie musicale comme Roméo et Juliette, la musique vous porte ou elle est une contrainte ou c'est le texte qui compte avant tout?
Dans ce spectacle, on a beaucoup de chance parce que les chansons sont la base de ce spectacle. Il y a les chansons que tout le monde connaît, qui sont populaires, il y a toutes les autres chansons qui sont pour moi 10 fois plus puissantes encore. Il y a vraiment une œuvre à découvrir. Pour la mise en scène, pour les danseurs, les chanteurs. Les danseurs sont à moitié en pleurs à chaque fin de spectacle, tous les soirs. Et ces chansons nous portent.
David, César sera toujours César et toi tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans me vouloir.
La lettre de Rosalie, Philippe Sard et Romy Schneider. C'était donc le choix de Laura Presgurvic.
Qui mettra donc en scène Roméo et Juliette à partir du 3 décembre 2027 au Palais des Congrès de Paris. Mais la billetterie ouvre dès demain.
Merci Julien Baldacchino. Je vous dis à lundi que ça donne envie de revoir César et Rosalie. Un peu de la mélancolie des notes de Philippe Sard pour la bande-annonce de cette semaine. La rédaction en chef, Cécilia Arbona, Sonia Princé et Lionel Thompson, assistée de Victorien Thomas, Rachid Zourdani et Nicolas Sabat, à la technique Ronan Mahé et Mélissa Etroit, Aurore Mansip, était notre attaché de production. Merci également aux standardistes d'Inter. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Quel est le programme?
Mon invité au carré, Yamina Saeb, qui est directrice de l'Observatoire mondial des sobriétés.
A tout de suite.